Radio.
La Touraine.
Radioactive.
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 Toute la vie locale dans une radio.
your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation and all of your ex-lovers. Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation.
Talking that go dead.
.7, la Touraine dans la radio.
La Touraine.
Radioactive.
Radioactive.
Je suis tellement jeune et belle, avec les cheveux longs. Tous les délires m'appartiennent. Et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain. La belle et grande aventure. Alors je monte le son et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. Je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. Thank you.
Radioactive.
Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.
Aujourd'hui, nous sommes censés être compétents dans de nombreux domaines de notre vie, que ce soit par notre façon de communiquer au sein de notre couple, dans notre travail, nos relations, notre famille, mais aussi dans notre aptitude à prendre et à tenir nos engagements. Or, le sentiment de réussir sa vie dépend-il en grande partie de notre réussite dans ces domaines ? Force est de constater que les méthodes d'éducation traditionnelles ne nous ont pas appris à être compétents face aux challenges de la vie. Elles ont même parfois constitué un obstacle à notre complet épanouissement. En France, il y a plus de 10 000 morts par an, soit presque un décès sur 50 qui est un suicide et une moyenne de 190 000 tentatives chaque année. Le suicide est un choix terrible et irréversible, mais c'est un choix. Il arrive souvent qu'on culpabilise parce qu'on n'a pas su en déceler les signes. Mais nous ne sommes jamais responsables du suicide d'une personne si nous ne savions pas clairement qu'elle allait passer à l'acte. Comment décrypter ce marasme ? Lionel Santucci est un voyageur du monde que j'ai rencontré sur mon chemin, quelqu'un de simple. Au contact de multiples cultures, il a réuni une solide connaissance de l'être humain, un atout précieux dans son travail d'accompagnateur dans le domaine de la communication transformative. Il a choisi de nous parler de ce sujet si délicat et si sensible pour se réconcilier avec nous-mêmes.
J'ai fait des formations d'écoutant avec la personne qui m'a formé. Et ben dans la formation, il y avait une formation prévention du suicide. Donc j'ai suivi la formation, donc il y avait cette formation prévention du suicide. Et immédiatement, quasi après avoir fait cette formation de prévention du suicide, j'ai commencé à m'apercevoir en écoutant les gens qu'il y avait plein de gens qui étaient suicidaires, quoi. Chose que je voyais pas avant. Donc j'ai commencé à accompagner des gens qui étaient suicidaires et j'ai vu qu'il y avait des résultats, c'est-à-dire que. Et pour le moment, tous les gens que j'ai accompagnés qui étaient suicidaires, il n'y en a aucun qui s'est suicidé. Et je pense que parmi eux, peut-être pas tous, mais il y en aurait qui seraient suicidés s'ils n'avaient pas été accompagnés. Du coup, ça m'a inspiré à enseigner aux gens des outils de prévention du suicide. Et puis après, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui avaient ces outils, et des retours assez extraordinaires, qui ont utilisé ces outils et qui ont décelé que quelqu'un était suicidaire et ils l'ont aidé à traverser l'épreuve, quoi, la dépression. Pas avoir peur de parler du suicide et de la mort. Et c'est ça la chose qu'on n'a pas vraiment apprise. La plupart d'entre nous, lorsque quelqu'un est suicidaire, on a plutôt peur d'en parler ou de parler de la mort, alors que dans la formation de prévention du suicide, la première chose que j'enseigne aux gens, c'est un tabou de parler de la mort, et c'est pour ça de ça qu'on va parler quand quelqu'un est suicidaire. Et c'est d'en parler qui va le permettre de passer à travers, quoi. En exprimant son désir de mourir, c'est là qu'il va pas se suicider souvent. Alors que de garder pour lui, c'est comme s'il cultivait une sorte de gangrène, quoi, quelque chose qui va le tuer.
Lionel Santucci.
Alors, moi, ce que j'ai appris dans ces formations et ce que j'ai pratiqué, c'est dès que je vois quelqu'un est dépressif ou... Par exemple, dans sa phrase, il va dire « Ouais, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, ouf, la vie n'a pas de sens. » Moi, je vais lui poser la question. C'est-à-dire, directement, je vais poser la question « Mais t'as pensé au suicide? T'as pensé à mourir ?» Et donc, c'est la première chose que j'enchaîne aux gens, c'est dès que tu sens que quelqu'un va pas bien, demande-lui. Demande-lui s'il pense à suicider. Quelqu'un qui a pas pensé à suicider, il va pas dire « Ah, j'y avais pas pensé, c'est une bonne idée, tiens. » Non, par contre, quelqu'un qui y a pensé, s'il se sent écouté, entendu, il va peut-être en parler. Et à partir du moment où il en parle et ben il s'exprime. Tu vas voir, tiens, il est dans une phase suicidaire. Donc la première étape, c'est de détecter est-ce qu'il a dans une phase suicidaire ou pas. Si la personne dit non, je ne veux jamais me suicider, j'ai une famille, bon, ben c'est bon, mais s'il dit oui, j'y pense, tous les jours j'y pense. Ben là, la deuxième étape, c'est de voir combien concret est le plan. C'est-à-dire que c'est différent une personne qui te dit ouais, j'ai envie de mourir, mais bon, ça me passe dans la tête un peu tous les jours, que quelqu'un qui te dit ouais, j'ai envie de mourir et j'ai le pistolet avec les balles dans ma chambre et je sais qu'à un moment je vais mettre une balle. Tu vois, la gravité n'est pas la même. Donc en fait, il s'agit de poser des questions pour mesurer la gravité. Et plus le plan est précis en relation avec le suicide, plus la personne est en danger, en fait. Donc là, après, c'est la troisième étape, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire. Et chacun a des qualifications différentes. Moi, je ne suis pas psychiatre ou psychologue, donc quand je vois que c'est vraiment grave, je vais appeler des professionnels, quoi. Mais si je vois que je peux écouter la personne et que je peux l'aider à changer d'avis, alors je vais l'écouter. C'est que de l'écoute. En fait, c'est simplement de l'écoute, mais sans jugement, sans rien, simplement accepter. Ouais, t'as envie de mourir, t'en peux plus. Et en fait, ce que je vais faire, moi, c'est je vais parler de la mort, justement. Oui, t'en peux plus. Je vais parler de ce que vit la personne, son expérience, son désir de mourir. Et parce que c'est le seul, souvent les gens qui sont suicidaires sont dépressifs. Et c'est le seul désir qu'ils ont. Donc, si on veut entrer dans leur monde, il va falloir entrer dans ce monde du désir de mourir. Donc entrer dans son monde de désir de mourir, ça veut dire l'accompagner là où il est. T'as envie de mourir, t'en peux plus, la vie n'a pas de sens pour toi. Vraiment l'accompagner dans cette souffrance de vide, quoi, de sans désir et juste arrêter la souffrance. Parce que les gens qui se suicident, en général, c'est des gens qui souffrent énormément, quoi. C'est pas des gens qui sont heureux. Donc accueillir cette souffrance. Et parfois, en accueillant cette souffrance, parfois, il y a une petite émotion qui se réveille. Par exemple, la personne va dire « Ouais, puis de toute façon, ce monde est injuste. » Et là, ah ouais, t'es un peu en colère avec le monde. Oui, c'est pas juste. Et dès qu'il y a une émotion, je vais, au lieu de souffler sur la mort, je vais commencer à souffler sur la vie, puisqu'il y a une émotion qui se réveille. Je vais m'intéresser à cette émotion, cette colère, cette frustration. Souvent, la dépression, c'est une colère réprimée. Donc, si je peux réveiller cette colère, alors il y a quelque chose qui va se passer. C'est la troisième étape, c'est réveiller une émotion dans ce milieu mortifère, là. Et une fois qu'une émotion est déclenchée, il y a de la vie, l'émotion, ça veut dire il y a de la vie. À ce moment-là, je vais demander à la personne de prendre un engagement avec moi ou avec lui. L'engagement, ça peut être ok, tu rentres chez toi, tu prends ton pistolet et tes balles, tu les donnes à ton voisin ou tu les jettes et tu te désarmes. Ou alors, écoute, quoi qu'il arrive cette nuit ou si tu te sens pas bien, tu t'engages à m'appeler demain matin à 7h. Tu t'engages à me téléphoner, quoi qu'il arrive cette nuit, parce qu'il se peut qu'il aille mieux, parce que je l'ai écouté pendant une heure ou deux, je l'ai écouté, il va mieux, mais il se peut qu'il rentre chez lui, au milieu de la nuit, il a envie de se mettre une balle, quoi, il se la met. Donc je vais lui demander de prendre un engagement. Et en prenant un engagement de m'appeler à 7h, si à minuit il va pas bien, comme il a pris un engagement, souvent les gens qui veulent se suicider veulent se débarrasser de tout, tu vas régler leurs problèmes. Et comme j'ai pris un engagement avec Lionel, si je me suicide, il y a un peu de culpabilité. Donc cette culpabilité, en fait, cette émotion, va l'empêcher de se suicider. C'est un piège un peu. Mais en fait, l'inverse de la vie, c'est pas la mort. L'inverse de la vie, c'est quand il n'y a plus d'émotion, c'est la dépression, en fait. Donc si on peut réveiller une émotion, même de culpabilité, ça va permettre à la personne de tenir la nuit et de me rappeler le matin et de dire « Ouais, Lionel, j'ai vraiment failli me suicider cette nuit, mais comme je t'avais promis, ok. » Et de continuer à l'accompagner si je suis qualifié. Ou encore une fois, référer la personne à des professionnels, c'est-à-dire des psychiatres, des psychologues qui peuvent l'accompagner.
Je dois mettre la ceinture, c'est obligé, non ?
Ça, tu peux mettre la ceinture si tu veux. Par contre, sur le chemin, c'est pas obligatoire. Après, il y a l'arbre.
C'est sûr. Ouais. C'est grisou.
Ah oui ?
Grisouille. C'est ton âne ?
Il y a deux ânes mâles. Tous les autres, c'est des femelles. Imagine, ils ont 18 femmes.
18
deux
femmes.
Ânes, 18 femmes. On les laisse pas toujours ensemble, sinon il y aurait plein de... de petits talons. Ouais. Mais de temps en temps, les lâche. Ils s'éclatent.
Tu penses que c'est chanceux d'être un mâle ?
Je pense pas que c'est chanceux d'être un âne. Parce que l'âne, il va voir la femelle et quand elle a pas envie, elle lui met des coups de sabot et lui, il continue, tu sais. Elle lui met des coups de sabot, il continue. C'est un âne, quoi.
Mais alors, est-ce que tu crois que on est chanceux d'être un homme ?
C'est pas mal, déjà. Disons que si j'avais le choix entre l'homme et l'âne, je prendrais l'homme, quand même.
Je vais dire l'homme et la femme.
Non, l'homme et l'âne, j'ai dit. Ah, tu parlais de ça, toi ? Homme et femme ?
Ouais.
Qu'est-ce qui est mieux ? Alors là, pas facile, hein ? Des avantages et des inconvénients dans les deux, je veux dire. Une femme, elle fait des enfants, c'est quand même une expérience qui doit être assez extraordinaire, quoi. Accoucher, tu vois, faire un enfant, quoi, qui grandit dans le ventre et tout, l'allaiter, toutes ces choses-là, c'est quand même... Après, il y a quand même pas mal de contraintes chez la femme que l'homme, il n'a pas, quoi.
Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES Plus Loin Sage. Aujourd'hui, notre invité, Lionel Santucci.
Donc il y a des, c'est à savoir ce que chacun est capable de faire. Dans les séminaires, moi j'enseigne beaucoup l'écoute. Donc j'accompagne les gens à accompagner. Si quelqu'un a les capacités d'écouter, d'accompagner, de faire prendre une décision à la personne, un engagement, il y a des chances que la personne elle traverse la phase suicidaire.
Et quelles sont les premières questions de l'ordre de l'écoute que tu poses?
Au début, c'est pas vraiment des questions, c'est plus si quelqu'un m'approche, il dit ouais, je suis pas bien dans ma vie et tout, je vais simplement entrer dans son monde et reformuler la reformulation basique. Tu te sens l'émotion parce que ouais, t'as pas de goût à la vie, parce que ça se passe pas comme tu veux ou je sais pas. Donc, vraiment reformuler quand viennent les questions. Si je sens qu'il y a un désir de suicide, la question ça va vraiment être directement ça. Ça va être t'en es où avec la vie et la mort? T'as pensé à te suicider? C'est quelque chose qui te vient dans la tête? Je vais être vraiment précis dans la question. Ça va vraiment être est-ce que tu y penses ou pas? C'est une question fermée, mais c'est je veux savoir parce que si tu me dis non, c'est quelque chose que je ferai jamais, c'est pas la peine de faire de la prévention du suicide. C'est pas quelqu'un de suicidaire. Donc la première chose c'est vraiment détecter cette question taboue dont tout le monde a peur, qui est la question la plus importante. Où t'en es avec la mort? Est-ce que t'as pensé à te suicider? Ce qui terrifie les gens, ça fait peur de demander cette question. Moi, je la demande au moins une fois par semaine, parce que j'ai beaucoup de personnes qui demandent de l'aide, de l'accompagnement et qui sont là. Et je dirais qu'une fois par an, il y en a un qui me dit « Ouais, je pense vraiment me suicider, quoi. » Donc, les 99% où j'ai demandé, si je le demande 100 fois, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Non, je suis pas suicidaire. Moi, ça me dit « Ok, bon, on peut bosser, alors on peut travailler sur autre chose que sur la prévention du suicide. » C'est pas que tout le monde est suicidaire. Il y a très peu de gens qui sont suicidaires. En même temps, si on regarde les statistiques, 200 000 tentatives de suicide par an en France, 200 000. Il n'y en a que 10 000 qui réussissent. Ça veut dire qu'il y a 190 000 personnes qui tentent de suicider et qui échouent. Ça veut dire que c'est pas facile de suicider. Ça demande beaucoup de courage. C'est pas facile. Et c'est pas un acte qui est... on a tous le choix, hein, mais c'est pas un acte qui est anodin, quoi. Quelqu'un qui suicide, il fait un effort qui est énorme. Il y a une souffrance derrière qui est énorme. Il y a une motivation pour mourir, qui est souvent de la dépression, maladie mentale ou alcoolisme, dépendance. Mais cette force qui pousse à mourir, elle est énorme, cette force. Parce que pour arriver à mourir, c'est pas facile, hein, pour se donner la mort. Donc les gens, il y a une force derrière, et cette force, au lieu d'être canalisée vers la vie, elle est canalisée vers la mort. Donc ça veut dire que si on arrive à choper cette force du désir de mourir, elle peut être réinjectée pour donner de la vie. En même temps, ça prend du temps et ça prend un peu d'expertise.
Message de vie. À comprendre.
Mes questions d'une façon honnête.
Non.
Je peux pas. Je veux bien, mais je peux pas. Non, je peux, mais ça veut pas dire je veux. Mais je peux, si je veux. Tu voudrais que je sois honnête?
De façon honnête, sans te prendre pour un prophète, un magicien, un philosophe ou un psychologue.
Ouais, je peux, ouais. Si je veux.
Message de vie, entendre un monde qui nous entoure.
Lionel Santucci.
Alors il y a des,
Et souvent, je donne l'exemple, quand je dis la distinction, je dis, je sais pas, moi, tu as un homme qui travaille, il va travailler à 8h du matin, il rentre à 6h du soir, et la femme, elle tarde de se suicider à 5h57, 3 minutes avant qu'il arrive. Et l'homme, il lui sauve la vie. Ça, c'est plus un appel à l'aide. Elle choisit, elle avait toute la journée pour se suicider, mais elle choisit le moment où le mari va arriver. Donc, c'est un appel à l'aide. Après, tu as une femme qui, le mari va travailler à 8h du matin, il rentre à 6h et elle tente de se suicider à 10h du matin. Mais l'homme, il a oublié son ordinateur, il rentre chez lui et il lui sauve la vie. Là, c'est pas un appel à l'aide. Il l'a sauvé par accident, mais il l'a sauvé parce que elle voulait vraiment mourir. Et là, il l'a sauvé par accident, parce qu'il avait oublié son ordinateur, donc c'est distinct. Après, quelqu'un qui menace de se suicider, la plupart des psys disent quelqu'un qui te menace, qui te fait du chantage affectif, qui veut se suicider. Pratiquement jamais ils se suicident, ces gens-là, parce qu'il y a de l'émotion, il y a de la colère, justement. C'est pas une dépression. Ça arrive, mais c'est très rare. Il n'y a rien d'absolu dans ce que je dis aussi. Il y a toujours des exceptions, mais en général, quelqu'un qui veut se suicider ne menace pas, quoi. Il passe à l'acte. En même temps, ils envoient des messages, les gens qui vont se suicider. Dans la prévention du suicide, on apprend aussi à lire ces messages.
Mais quels sont ces messages ?
Alors, il y a plein de messages, par exemple. On s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui suicident. De jeunes adolescents. C'est les jeunes qui suicident, les jeunes humains et les personnes âgées. Les personnes âgées ne veulent plus vieillir et les jeunes ne veulent pas vivre. Donc, c'est inquiétant pour la société. Donc, par exemple, un jeune, on s'est aperçu qu'un jeune qui va, un jeune adolescent qui veut se suicider va donner ses affaires. Par exemple, il va donner son scooter à son pote ou son iPhone ou son ordinateur, des choses. Donc, si quelqu'un a un enfant, si vous avez votre enfant qui revient avec l'iPhone ou le scooter de son copain et qui vous dit qu'il vous l'a donné, appelez les parents. Peut-être que les parents sont très riches et tous les 6 mois, ils changent d'iPhone, tu vois. Ou peut-être que lui, il a décidé de se suicider. Enfin, il commence à donner ses affaires. Donc, il y a des legs qui sont faits. Quelqu'un qui veut partir, souvent, veut partir en paix. Donc, il va donner ses affaires. Donc, si quelqu'un, je sais pas, il donne sa voiture, ça coûte rien d'aller demander aux parents ou même à la personne, tiens, t'as donné tes affaires, qu'est-ce qui se passe ? Ça coûte rien d'explorer un peu. C'est des questions qu'on pose pas toujours, mais souvent, quand quelqu'un se suicide, on se dit, ah, il y avait quelque chose, j'avais pas vu. Je me rappelle une fois, il y a un ami qui s'est suicidé et j'habitais dans un ashram, un monastère, quoi. Et une semaine avant, il nous avait renvoyé son chapelet, en fait, au monastère. Il était parti, il avait renvoyé son chapelet, on s'est dit, tiens, il arrête de pratiquer. Et en fait, aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, je leur ai téléphoné tout de suite, j'aurais dit, qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas anodin, un chapelet, tu vas prière. En fait, il s'est suicidé juste après. Donc, les gens, avant de se suicider, ils envoient, ils vont régler leurs affaires, pas toujours, mais la plupart du temps, ils vont envoyer une lettre ou ils vont commencer à régler leurs affaires, arranger leur maison, faire des legs, tu vois, je vais partir en voyage, donc je te laisse ma voiture. Donc, d'explorer des choses, des grosses donations, surtout les jeunes, quand ils donnent leurs affaires, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi, on s'est aperçu aussi que quelqu'un qui veut se suicider, en général, il veut pas laisser d'ambiguïté ou il veut pas faire souffrir les autres parce qu'il souffre déjà lui-même. Donc, il va y avoir des changements de comportement. Par exemple, quelqu'un kiffe. Tout d'un coup, ton voisin, il est complètement dépressif, puis tu sors, puis il est en train de siffler, en train de tondre la pelouse, tu vois, tout super heureux et tout. Ben, c'est pas anodin, un changement de comportement. Donc, peut-être qu'il a trouvé un super thérapeute, et c'est bon d'aller le voir pour lui demander, c'est quoi l'adresse de ton thérapeute, ça peut servir. Ou peut-être qu'il a simplement décidé d'en finir. Donc, il était dépressif, et du moment qu'il décide d'en finir, il a un but dans la vie. Donc, il est plus dépressif. Il a un sens à sa vie, c'est mourir. Donc, quand on voit un changement de comportement, c'est d'aller voir la personne, lui dire, dis donc, t'as l'air d'aller bien, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et t'as trouvé un bon thérapeute? Non, j'arrête là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça coûte rien d'aller voir quand il y a un changement de comportement, où est la personne, et de poser la question. Où t'en es avec la vie? Ou l'inverse, quelqu'un qui va super bien, puis d'un coup, qui va super pas bien. En général, on s'inquiète plutôt des gens qui vont pas bien que des gens qui vont bien. Et pourtant, c'est souvent que des gens qui se suicident juste avant de se suicider, ils ont décidé de se suicider, donc la vie reprend un sens, mourir, et du coup, il y a une sorte d'espoir, quoi, qui est trompeur. Donc poser la question, toujours poser la question.
Comment tu peux distinguer quelqu'un qui veut se suicider et qui ne peut pas se suicider parce qu'on porte tous un masque? Et tu sais bien que ce masque, on va afficher le meilleur de soi.
Ouais, mais quand les gens ils commencent à vouloir parler du suicide, le meilleur de soi, ils le mettent un peu de côté, tu sais, le masque. En général, quand les gens ils sont dans une dépression telle qu'ils ont envie de mourir, il n'y a pas trop de masque en général. Même si on pourrait dire que l'émotion et la dépression, ça peut être un masque, mais en général, quand il y a quelqu'un qui est vraiment pas bien, il est vraiment pas bien, quoi. Il n'y a pas de jeu, là. On est dans la dépression, donc... Bon, il y a quelqu'un qui peut dire « Non, je vais bien » et mentir et suicider une semaine après. Ça peut arriver que la personne, elle mente. Elle porte le masque de « Je vais bien ». Mais en général, quand on rencontre quelqu'un qui va pas bien, on le sent, quoi. Après, la question, il est libre d'y répondre ou pas. Hein. Si je lui dis « Tu veux te suicider ?», il peut dire « Non, non ». Et puis le faire. Mais la plupart des gens que j'ai vus qui ont utilisé ces outils,
Mais moi, quand je les ai utilisés, la plupart du temps, la personne était sincère. Elle disait oui ou non, et ça s'est avéré vrai, quoi. Quand elle disait oui, je veux mourir, il y avait vraiment une urgence. Et moi, ça, tu vois, si vraiment je décèle qu'il y a une urgence et que je peux rien faire, je vais appeler des professionnels. Je pourrais appeler le SAMU ou l'hôpital, enfin, un SAMU psychiatrique ou quelque chose pour accompagner la personne, même si je suis pas pour l'internement, etc. Si c'est pour sauver une vie, il y a des gens professionnels. Et j'ai jamais vu quelqu'un à qui j'avais demandé d'aller voir un psychiatre ou qui avait été interné, qui revenait me voir et me dit, m'insulter, tu vois, en me disant qu'est-ce que t'as fait, tu m'as sauvé la vie, j'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu des gens qui sont venus, ils m'ont dit merci, j'étais vraiment pas bien, je pense que je serais passé à l'acte. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui me dit qu'est-ce que t'as fait, tu m'as empêché de me suicider. Donc ça coûte rien. Après, c'est pas à nous de juger dans le cas psychiatrique, il y a des professionnels pour ça. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui mentait au point de dire je vais pas t'en parler parce que. Enfin, moi, j'ai pas vu ça. Il y a des gens qui m'ont parlé de suicide et qui se sont suicidés. J'ai rien pu faire, ça arrive. Qui veut suicider, suicide si vraiment il est déterminé. C'est-à-dire qu'ils m'en ont parlé, ils m'en ont reparlé, ils m'en ont reparlé, puis un jour ils n'ont plus parlé parce qu'ils étaient morts, quoi. Et moi j'ai écouté, etc. Et à un moment, je me rappelle que j'avais travaillé avec une amie qui travaillait aux États-Unis dans une hotline, là, c'est tous les gens dépressifs qui appellent. Et elle m'a dit pendant 3 ans, il y a un homme qui appelait tous les soirs. Pendant 1 heure, il appelait, je vais me suicider et tout. Et elle l'accompagnait, tous les soirs il l'appelait. Un jour il a plus appelé, s'est renseigné, c'était suicidé. Le suicide est un choix, je veux dire, si quelqu'un veut vraiment se suicider, même en prison, où les gens sont hyper surveillés, ils arrivent à se suicider. Donc si quelqu'un veut se suicider, il va se suicider. Après, on peut accompagner quelqu'un qui veut se suicider, mais c'est pas complètement, c'est passager, quoi, donc il va s'en sortir. Après, si quelqu'un veut vraiment mourir...
Mais comment rencontrer, aider quelqu'un qui veut se suicider? Déjà, est-ce que je dois me confronter quelque part à la mort, moi-même? Donc, comme la mort peut me faire peur, je ne veux pas entendre ce que l'autre me dit. Si je sens que...
Mais c'est ce que tu viens de dire. Aider quelqu'un qui veut se suicider, c'est-à-dire se confronter soi-même au choix de vivre ou de mourir. Ça nous parle, quoi. C'est pour ça que c'est tabou, la mort. Hein. Ça nous fait peur. La mort, c'est tellement loin et tellement proche. La mort, on pense que de la mort, on pense toujours aux autres, parce que finalement, on n'est jamais mort, sinon on ne pourrait pas en parler. Donc la mort, c'est très spécial, la mort. C'est là et pas là, quoi. Demain, t'es peut-être mort, ou je suis mort, on se parle aujourd'hui, tu vas dire, ah, j'étais avec Lionel hier, on se parlait, il est mort. C'est très proche, et en même temps, c'est très loin, on n'y pense jamais. Donc le suicide fait que ça, on est en face de quelqu'un qui veut se suicider, ça nous rapproche de la mort, de nous-mêmes, de. Donc effectivement, on a peur d'en parler, et c'est ça le problème du tabou, c'est que, on a peur de parler quelque chose qui va tous nous arriver. Tous, et qui changerait profondément la vie de l'humanité si justement on en parlait, si on se confrontait à la mort. Mais la vie de l'humanité est basée sur la vie sans parler à la mort, et c'est la folie, quoi. C'est un peu une folie. L'humain est fou, quoi. Il pense pas à sa mort. Alors que la sagesse, ce serait de penser tous les jours qu'on va mourir demain et de vivre comme si on allait mourir demain, vivre pleinement. Donc oui, on a peur de parler de suicide parce qu'on a peur de la mort. Donc ça éveille la peur de la mort. Cette chose qu'on veut repousser, mais qu'on n'a aucun pouvoir dessus, en fait.
Déjà, et aussi la responsabilité qu'on porte, le fait d'aider quelqu'un qui veut se suicider, s'il échoue, si on échoue, il se suicide et on a une culpabilité.
Alors ça, c'est intéressant, parce que ça, on en parle à la prévention du suicide. Quelqu'un qui se suicide, c'est pas un homicide, c'est un suicide. Il se donne la mort à lui. Donc personne d'autre n'est responsable de sa mort que lui-même. En tout cas, coupable, personne ne l'a tué, donc il n'y a pas de culpabilité. Je crois qu'il y a une fois aux États-Unis où il y a quelqu'un qui a été considéré comme coupable parce qu'il avait harcelé quelqu'un avec des SMS pour qu'il se suicide, et ça a été prouvé, donc il a été condamné. Mais sinon, il n'y a pas de condamnation à... Si on n'aide pas quelqu'un à suicider, bien sûr, si on l'aide à suicider, c'est une complicité, c'est une non-assistance à personne en danger. Mais si on n'aide pas la personne, on fait tout pour qu'il aille mieux, on l'accompagne, etc., et qu'il se suicide, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Le problème, c'est que les gens culpabilisent. Mais ça, c'est encore intéressant à explorer, la personne qui culpabilise parce que quelqu'un est mort dans sa famille, s'est suicidé, le frère, les parents. Quand on parle de la prévention du suicide dans les séminaires, tout le monde parle de culpabilité. Mon père s'est suicidé, ma mère s'est suicidée. Mais c'est fort parce que cette culpabilité, elle génère des resuicides dans les familles. Ça devient transgénérationnel, toi. C'est-à-dire, on reproduit en plus. Parce que la culpabilité amène à reproduire. La culpabilité, c'est l'inverse de la responsabilité. La responsabilité, elle va nous faire changer de voie. Je change ma réponse. Mais la culpabilité, c'est je recommence la même chose. Donc si je reste dans cette culpabilité, oui, c'est toxique. Mais si on n'a pas tué la personne et qu'elle s'est suicidée d'elle-même, on n'a pas de culpabilité là-dedans. On a peut-être des responsabilités pour qu'on ne l'a pas aidé assez. Mais ce n'est pas une culpabilité. C'est bon, je ferai mieux la prochaine fois. Mais il n'y a pas d'actes qui ont fait que sciemment, j'ai aidé cette personne à mourir. Donc il y a quelque chose à distinguer là-dedans entre responsabilité, culpabilité. Et puis, d'après moi, on devrait tous être formés à l'accompagnement, à la prévention du suicide, à la communication. Même dans les écoles, on pourrait faire ça. Nous, on fait une heure et demie dans les séminaires de prévention du suicide et on fait une journée de communication. Donc, en 3 jours, les gens, ils pourraient être formés Il y a 200 000 tentatives de suicide. Si vraiment on prenait des mesures comme on a pris pour la prévention routière, je pense qu'on pourrait diminuer de moitié en 2-3 ans les tentatives de suicide en France. Je pense. Après, tu vois, je travaille aussi en Amérique du Sud, en Uruguay, pareil, ils ont encore plus de suicides qu'en France. Après, les Français, plus grands consommateurs d'antidépresseurs, donc on n'est pas bien, tu vois, donc... Il y a quelque chose... Tu vois, quand on commence à parler de suicide, on commence à parler de l'état général des gens, et ça veut dire qu'il y a un certain problème d'existence, existentielle, c'est-à-dire les gens ne veulent plus vivre. Si tu veux plus vivre, c'est que t'es pas heureux. Si t'es pas heureux, c'est quelque chose qui va pas bien. Et s'il y a beaucoup de gens qui veulent plus vivre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien, mais dans toute la société, quoi. Donc, on pourrait travailler sur ça. Si c'était vraiment l'axe de travailler sur la prévention du suicide, on pourrait faire plein de choses en France, et dans le monde entier, d'ailleurs. Je sais plus si c'est pas 8 millions par an de suicides. Je veux pas dire de bêtises, mais dans le monde, c'est assez énorme, le chiffre. Ça fait peur, quoi. Je crois qu'il y a plus de gens qui se suicident dans le monde par an que de gens qui ont été tués pendant la dernière guerre mondiale, tu vois. Mais pourquoi on parle pas de ces choses-là? On parle pas parce que ça remet en question toute notre vision de la vie, comme tu dis, de la mort, du sens de la vie, de qu'est-ce qu'on fait là. Regarde les statistiques, les gens qui sont spiritualistes se suicident moins que les athées. Les matérialistes se suicident plus. C'est normal, ils croient qu'il n'y a plus rien derrière, donc qu'il n'y a rien à perdre. Il y a toutes ces choses-là, on n'en parle pas parce que ça orienterait la société dans une autre direction. Si on voulait résoudre le suicide, il faudrait peut-être plus d'éducation spirituelle. Il faudrait peut-être moins de matérialisme. Enfin, il y a des pistes, quoi. Mais oui, c'est tabou parce que ça remet en question tout un système.
La série d'émissions de messages de vie. Message de vie, donné à comprendre.
Vous écoutez Le Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage. Aujourd'hui, notre invité, Lionel Santucci.
Nous parlons le même langage et pourtant nous avons des difficultés à nous comprendre. Quelles sont les causes de cette incompréhension?
Tu parles de toi et moi? Ou en général l'humain?
En général l'humain, nous...
Je pense que, enfin, pour mon expérience à moi, c'est si je comprends pas les gens, c'est parce que je les écoute pas, tu vois. Et avant, je crois que j'écoutais très peu les gens avant d'apprendre à écouter. Et je crois que j'ai jamais vraiment compris les gens avant de les écouter. Et même quand je les écoute, des fois, je suis pas sûr de les comprendre. Je suis obligé de répéter des fois ce qu'ils disent pour être sûr d'avoir compris. C'est bien ça que t'as dit. Et je te dis, une fois sur deux, c'est pas vraiment ça qu'ils ont dit, quoi.
Comment avoir une meilleure compréhension, hein?
Je pense qu'il y a redoublé d'écoute et vérifier à chaque fois, quoi. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, j'en ai marre de bosser dans cette boîte et tout, j'ai envie de changer de boîte, enfin, vérifier, ouais. J'entends que t'en as marre, quoi. On est au bout du rouleau, tu veux vraiment changer de boulot, quoi. Et peut-être, non, je veux pas changer de boulot, c'est juste que je suis obligé, toi, donc j'ai pas vraiment compris, en fait. Donc c'est pas évident de vraiment être sûr d'avoir compris quelqu'un. Il y a intérêt à vérifier, en tout cas.
On n'a pas cet automatisme pour vérifier.
On n'a pas appris, ouais. Parce qu'on présume beaucoup que ce que les gens disent, c'est ce que nous, on se dirait dans le même cas. Et aussi, on présume beaucoup que quand ils parlent, enfin la plupart des gens, ce qu'ils font, enfin, moi je le faisais aussi beaucoup avant, c'est que quand quelqu'un le parle, je suis en train de penser à ce que je vais dire quand il va arrêter de parler, donc je l'écoute plus. Donc dès qu'il arrête de parler, je suis même plus là où il en est, parce que ça fait un petit moment que je pense à ce qu'il a dit, les trois premiers mots, tu sais. Donc en général, je réponds quelque chose, mais qui est déjà plus à voir avec ce qu'il a dit, quoi. En fait, il y a deux monologues et chacun, il pense que c'est un dialogue, mais c'est pas un dialogue, c'est deux monologues, quoi. Et souvent, j'ai vu ça, moi.
Parce qu'on s'arrête sur quoi, alors? On s'arrête, ça va? Tu vois, t'arrives à voir?
Ouais,
c'est bien. Ça va?
Ouais.
Parce qu'on s'arrête, finalement, on ramène tout à soi. On écoute le dialogue de l'autre et on ramène à soi.
Ouais.
Les trois premiers mots, c'est intéressant.
Tu sais, il y a des exercices en psychanalyse, là. Moi, j'ai jamais fait de la psychanalyse, mais où ils vont te dire un mot, puis tu vas dire un... Tu sais, je te dis nuage, et tu le dis blanc, le dis chèvre, l'autre il dit sexe, tu vois, il y a des choses comme ça. Et je pense qu'on fait pareil, automatiquement. C'est-à-dire, quelqu'un dit trois ou quatre mots dans la phrase, et nous, ça nous amène, ça nous évoque des idées, des images du passé, des subconscients, inconscients. Et donc, dès qu'il a parlé de ça, il y a notre pensée, notre mental qui se maraude, et on commence à écouter notre mental, on entend plus que l'autre il dit, quoi. Et après, on va répondre, mais en fait, on répond pas par rapport à ce qu'il a dit, mais par rapport à ce qu'il a dit, ça nous a fait. L'affect, en fait, ce qui nous touche dans ce qu'il a dit. Et ça veut dire que c'est vachement un dialogue de sourds, quand même. Hein.
Mais alors, ça touche quoi? Ça touche quel côté de nous-mêmes?
Je sais pas, ça doit toucher des choses du passé, des expériences du passé.
Oui, alors les expériences du passé, c'est ce qu'on a en mémoire. Et donc, la mémoire, elle est stockée coup dans notre cerveau. Mais plus précisément, c'est surtout nos émotions. Ce seraient nos émotions.
Je pense que la mémoire, elle est stockée grâce aux émotions. C'est-à-dire que les émotions, c'est un peu ce qui grave la mémoire. Mais les événements, ils sont gravés, ils sont dans ces émotions, quoi. Je sais pas, c'est comme si tu dis à un enfant, quand il est tout petit, t'es un petit con, t'es nul. L'enfant, il a peur quand il entend ça. Donc, il y a une émotion. Et le message, il rentre dans l'émotion. Il est ancré en lui, enfermé dans cette émotion. Et chaque fois que l'adulte, dans sa vie, il se met à avoir un challenge, un examen ou un truc comme ça, où il se reconnecte avec le stress et la peur, il se dit à nouveau, je suis nul, quoi. Il échoue. Tu vois, c'est-à-dire que l'émotion, en fait, c'est ce qui enferme le message qui a été donné. Et chaque fois qu'on entend quelque chose, en fait, si on l'a vécu avec émotion avant, ça réveille cette croyance ou cette identité ou... Et en fait, je pense que chaque fois qu'on parle, même dans une conversation totalement ordinaire, il y a plein de choses comme ça qui se... C'est mon téléphone. Il y a plein de choses comme ça qui se mettent en route, quoi. Puis alors, plus on a de cultures différentes, comme toi, t'as des origines marocaines, etc., plus on a engrangé d'informations distinctes, donc c'est plus compliqué de comprendre, parce que toi, tu vas avoir un passé d'enfant, je sais pas, au Maroc, ou je sais pas où, ou de la famille marocaine, donc avec une culture différente, ça veut dire que chaque fois que moi, je vais dire quelque chose, ça va éveiller des trucs que moi, je connais même pas, parce que je suis pas de ta culture, tu vois. Alors, pour se comprendre, après, c'est vachement difficile, quoi.
Bah, à la limite, c'est mieux, parce que je vais pas éveiller en toi, vaut mieux se connaître, avoir un métissage qu'on connaît pas.
Ça dépend si mon père a fait la guerre à l'Algérie ou pas, tu vois, tu vois la complication. C'est si moi j'ai un père qui a fait la guerre d'Algérie et que le mec il commence à me parler de l'Algérie, peut-être qu'il y a toutes les connotations de la guerre et tout, je vais me sentir coupable, je sais pas, mon père culpabilisait beaucoup sur ça. Tu vois, et ça réveille le, tu vois, ça devient un truc vachement complexe, c'est-à-dire au moment je deviens raciste, parce qu'en fait j'ai peur de sentir la culpabilité que mon père, tu vois, ça devient vachement codé le truc. C'est pour ça que c'est tellement simple d'écouter.
Tu veux répondre?
Ouais, je vais répondre bien.
Vas-y.
C'est tellement simple d'écouter, mais on le fait rarement. En tout cas, c'est un super exercice d'écouter. Moi, j'encourage tous les gens à écouter au moins 3 minutes sans répondre les autres, tu vois. Une fois par jour, écouter une personne 3 minutes sans répondre. Je parle pas d'écouter la télé, hein. Parce que les gens, ils restent devant la télé, écouter la télé, ils répondent pas. Quoique mon père, il regardait la télé et quand il y avait les politiciens, il disait « Quel con celui-là !» Il les insultait et tout. Mais la plupart des gens, ils regardent la télé, mais ils sont capables d'écouter la télé pendant des heures sans rien dire, mais ils ont du mal à écouter leurs propres enfants pendant des heures sans rien dire. Moi, je proposerais des exercices comme ça. Écoutez votre femme, votre mari, vos enfants pendant, je sais pas, 5 minutes par jour sans réagir. Juste écoutez. Boum. Sans penser.
Ah ben, on parlait du suicide tout à l'heure.
Tu veux répondre ou...
Le regard de l'autre est important. Donc, comment arriver à dire qu'on ait une envie de se suicider quand justement le regard de l'autre est plus important?
La plupart des gens qui se suicident, ils n'en parlent pas, tu vois. ils en parlent si quelqu'un leur propose d'en parler. C'est-à-dire s'il y a une oreille qui est là pour... Il y a beaucoup de honte, de culpabilité à vouloir mourir. C'est sale. Et puis, il y a toute la religion. Le suicide, c'est condamné. Il y a quelques années encore, quand tu te suicidais, tu n'avais pas le droit d'aller à l'église enterrer des fosses communes, quoi. Il y avait un tabou. Donc, effectivement, c'est encore en nous. Donc, quelqu'un qui est suicidaire, il y a des gens qui vont chercher de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des psys. J'en peux plus. Et tout. Il y en a énormément. Mais les gens qui suicident, c'est des gens qui ne vont pas y aller parce qu'il y a ce tabou. C'est pour ça que la première chose, c'est de briser le tabou, c'est d'ailleurs en parler. C'est-à-dire que dès que je perçois quelqu'un qui ne va pas bien, lui poser la question, t'as envie de te suicider, t'en es où là? Et là, il va en parler. S'il sent qu'il y a une oreille qui est prête à l'écouter, qu'il ne juge pas, il va dire, ouais, j'y pense. Ok. C'est ça le truc, c'est de poser la question. Sinon, lui, il ne va pas en parler lui-même. T'imagines le poids qu'il y a derrière, la honte, la culpabilité, c'est horrible.
Mais tu disais tout à l'heure, il ne va pas oser les voir à un psychiatre.
Il y en a qui ne vont pas aller voir.
Parce que c'est tabou, le sujet est tabou. Mais toi, par exemple, tu n'es pas un psychiatre. Pourquoi à toi on t'en parlerait?
Alors moi les gens, et c'est marrant parce que moi les gens se réfèrent par rapport à d'autres gens qui ont fait des stages, qui ont fait de... Et les gens viennent me voir parce qu'ils me connaissent. Et en général ils viennent parce qu'il y a un copain qui leur a dit, hey, il y a un copain qui m'a dit t'appeler, je vais pas bien. Mais ils me parlent pas de suicide les gens. Toi je vais pas bien, donc il m'a dit t'appeler, est-ce que tu peux m'aider? Et moi je dis, ouais, on se rencontre et au bout de deux, trois phrases, je lui dis, mais t'en es où avec la vie, la mort là? Tu m'as l'air un peu déprimé, tu t'as pensé à te suicider? Mais ils s'y attendent pas, les gens, en général, que je leur pose cette question. Et il y en a 1 sur 10, je te dis, à peu près, ou 1 sur 100, je sais pas fait de statistiques, il va dire, ouais, j'y pense tous les jours. Ok, on va travailler là-dessus, qu'est-ce que t'as besoin comme aide? Et là, je jauge si je peux l'aider ou si j'ai besoin d'un professionnel. Mais ces gens-là l'auraient jamais dit si j'avais pas posé la question, tu vois. Mais comme ils sont référés avec des gens, ils ont déjà une certaine confiance en moi, tu vois. Il y a un truc qui se passe, puis je suis justement pas psy. Tu vois, je vais pas leur donner des médicaments, je suis pas psy, je suis pas... Les gens ont des appréhensions envers les psys, pas tous, mais il y en a qui ont des appréhensions, donc ça permet de... C'est pour ça que tout le monde devrait avoir ses outils.
Mais justement, avoir ses outils, tout avant de passer chez le psy, quelle est la limite? Avant de passer dans un cabinet psychiatrique, quelles sont les limites qu'on ne doit pas dépasser, mais qui nous permettent d'aider?
Tu sais, il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui m'a appelé, il était en Espagne, à Madrid, à côté de Madrid, il habite, et puis il venait de faire le stage avec moi un mois avant. Et il m'appelle, il me dit, ouais, il m'est arrivé un truc incroyable. Il a appelé une nana qui était à Toulouse, une amie à lui, puis elle était pas bien. Elle lui dit, ouais, je vais pas bien, j'en ai marre et tout. Et lui, à un moment, il lui a dit, mais t'as pensé à te suicider? Et la fille, elle lui a dit, ouais, j'ai les pilules. En face de moi, je viens de passer à la pharmacie, j'ai les pilules. Lui était à Madrid, tu vois. C'est ce qu'il a fait, le gars. Il a dit, ok, bouge pas. Il a continué à lui parler. Il a pris sa bagnole. Il est allé jusqu'à Toulouse de Madrid en lui parlant au téléphone, sans couper le téléphone. Et il a débarqué chez elle, il lui a sauvé la vie. S'il avait pas fait le stage, il aurait jamais posé la question. Elle serait morte. Tu vois, donc, lui, il n'a pas appelé un psy, il est allé, quoi. Après, peut-être que si moi, je suis au bout du monde et je vais peut-être appeler le SAMU avec un autre téléphone, tu vois. J'ai déjà fait ça, appeler le SAMU à un autre téléphone qui est allé défoncer la personne avec qui je parlais, tu vois. Ça m'est arrivé. Quelqu'un à Paris qui m'appelle, je dis, ouais, peut-être va pas bien, appeler le SAMU. Et le SAMU qui dit, oui, mais il faut des preuves, allez-y, va suicider. Tu vois, là, c'est chacun voit ses limites, c'est personnel, tout ça. Moi, j'aurais pas fait Madrid-Toulouse, tu vois, j'aurais pas eu le. Enfin, j'ai trouvé que c'était super ce qu'il avait fait, tu vois. Enfin, je l'aurais peut-être fait, mais il faudrait vraiment que j'ai confiance en moi ou je sais pas, tu vois. Lui, il a eu confiance en lui qu'il allait tenir jusque-là, tu vois. Imagine qu'elle se suicide quand il arrive, ou... c'est risqué. En tout cas, il a réussi, mais c'est personnel, ça. Jusqu'à combien je peux donner? Puis il y a deux sortes de gens qui sont suicidaires. Les gens, c'est chronique, c'est-à-dire toutes les années, au mois de novembre, au mois d'octobre, ils ont envie de se flinguer, tu vois. Et toutes les années, ils vont venir te voir s'ils ont besoin d'aide. Et si toi, t'es solide, tu peux les accueillir des jours et des jours. Ils vont pas se soigner en une heure, hein. C'est des jours et des jours. Les gens qui sortent de la dépression, c'est des années, des fois des mois. Et puis, t'as quelqu'un, il y a une catastrophe dans sa famille, tu vois. Il y a eu un accident d'avion, sa femme est morte, ses enfants sont morts, il est suicidaire, mais ça va durer 2-3 ans, et après, il est plus jamais dans sa vie va être suicidaire. Donc, c'est important de voir à qui on a affaire aussi. Sinon, t'as des gens qui vont débarquer chez toi, mais tout le temps, dès qu'ils vont pas bien aller. Et puis un jour, ils vont se suicider, et puis ouais, tu vas dire, merde, à cause de moi, je n'étais pas là, j'aurais été suicidé. Ben non, c'est à toi de doser. C'est cette relation avec la mort, justement, d'accepter que quelqu'un peut se suicider. C'est acceptable aussi. Tu ne peux pas juger quelqu'un. Je crois que c'est au Japon, on juge les gens qui se ratent, tu sais. Il y a un pays où quand quelqu'un se rate du suicide, il est condamnable.
Mais tu avais à l'époque aussi ceux qui se suicidaient, on ne les enterrait pas au cimetière.
C'est toujours comme ça, mais quelqu'un qui se rate. T'imagines, il y a 190 000 tentatives de suicide en France où les gens se ratent par an. Et bien ces gens-là, il y a des pays où on les condamnerait. T'as intérêt à pas te rater, ou alors, tu vois, je sais pas, peut-être que ça freine les gens de se suicider, j'en sais rien, faudrait regarder les statistiques. Ce que je veux dire, c'est que savoir où est la limite, c'est toi tu vas accueillir des gens, tu vas les sauver, que moi je sauverai pas, puis l'inverse aussi, il y a des gens que tu vas sauver, que toi tu vas pas sauver, c'est tellement personnel ça. Toi, l'affection que t'as pour la personne, si c'est, je sais pas moi, c'est quelqu'un de ta famille, ce que tu vas investir comme énergie va pas être le même que si c'est un étranger ou l'inverse, hein. Des fois tu donnes plus aux étrangers qu'à ta famille. Il y a tellement de facteurs, donc c'est vraiment personnel de savoir jusqu'à quand je peux accompagner une personne et l'aider. Imagine si la personne vient tous les jours pendant 3 heures te parler. À un moment, tu vas dire, écoute, tu prends ton flingue et tu flingues, hein, c'est bon, quoi.
Ça, tu peux te le permettre de le dire à quelqu'un?
Moi, je dirais pas. Mais il y a un gars qui s'appelle Fratellini, je crois, hein, qui fait la thérapie provocative aux États-Unis, au Texas. C'est le genre de chose qu'il fait. Il met le flingue, il dit, écoutez, moi, je veux bien vous soigner, c'est 150 $ de l'heure. Vous avez une demi-heure, passée déjà, donc vous me payez la demi-heure, vous flinguez pas, mais faites-le vite parce que... Mais le gars, il a un chakti, tu vois, il a un pouvoir. Il fait 1m95, tu vois, c'est un Texan, il a la chemise à carreaux. Il a quelque chose d'un charisme, d'un amour, ce gars-là, qui fait que quand il provoque la personne, elle le fait jamais. Et moi, j'ai pas ça, donc je le ferai pas. Je ne donnerai pas un flingue à quelqu'un, il devrait te flinguer, et puis on verra après. Je ferai pas. Mais il y a des gens qui ont un charisme qui fait que la personne, elle a tellement confiance dans cette personne que pour cette personne, elle va pas tirer, quoi. Alors, c'est tellement personnel. Moi, j'ai des outils de base, comment accompagner, comment déceler quelqu'un qui se suicide. Après, chacun peut faire de son mieux. Je n'avais pas ces outils. Si je comptais les gens que j'ai connus qui sont suicidés, j'ai pas assez de mes 10 doigts, moi. Parce que, comme tu dis dans le séminaire, quand je dis tout le monde ici a connu quelqu'un qui s'est suicidé, au début, les gens me disent oh non. Puis une heure après, ah si, ah mais, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, souvent, moi, je repense quand je fais mes séminaires, j'en ai fait plein des séminaires. Et maintenant, au moins 10, peut-être plus que 10 que j'ai connu qui sont suicidés. Mais j'avais pas encore fait de formation. Par contre, depuis que j'ai fait la formation, je connais pas une seule personne qui s'est suicidée dans mon environnement. Par contre, j'ai beaucoup parlé de la mort avec des gens. Donc je pense que seulement en parler, même si on pratique la prévention, même si ce n'est pas directement avec la personne concernée, il y a quelque chose qui... Le fait qu'on en parle fait que les gens se... Tu as vu le séminaire, tu as vu les gens en parlent. Quand on arrive, tu as vu, tout le monde est en larmes. Les gens se... Mon père, ma mère, mon frère, moi-même. C'est quelque chose qu'on a tous proche de nous. Donc quand les gens peuvent en parler déjà, le fait d'en parler fait que ça apaise la pression et ça élimine une partie du problème, en fait. L'autre fois, j'étais en Uruguay et j'avais une émission de télé à faire et c'était le jour de la prévention du suicide en Uruguay. Et le gars, il était à la télé et il disait, ouais, le présentateur qui d'habitude présente le football, tu vois, il disait, ouais, est-ce qu'on doit parler de la prévention du suicide? Est-ce qu'on doit parler du suicide aux gens qui sont suicidaires ou pas? C'est une bonne question. On va demander aux téléspectateurs qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils vont demander à une foule de gens qui savent rien de voter pour un truc, tu vois. Et après, c'était à mon tour de parler. J'avais pas parlé de la prévention du suicide, mais j'ai commencé tout de suite. J'ai dit, écoutez, là, vous demandez à des ignorants de choisir quelque chose dont ils savent rien, les gens. Ils n'ont pas de formation. Demandez à des professionnels. Dès que quelqu'un est suicidaire, on lui parle du suicide, oui. C'est la base même de la prévention du suicide. Donc, je voudrais le dire, puisque je suis à la télé, si quelqu'un est suicidaire, parlez-lui du suicide. Parlez des mots, n'ayez pas peur, c'est pas tabou. Et là, il a réagi, attends, mais tu peux pas dire ça. Si, je dis ça parce que je connais, vous connaissez pas. C'est que les gens, ils ne savent pas. Il suffirait d'informer les gens, de les former comme on fait dans le séminaire. Et après chaque séminaire, j'ai des gens qui m'appellent et qui disent, tiens, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je lui ai demandé s'il allait se suicider. Il m'a dit oui, je l'accompagne, il s'est pas suicidé. Chaque séminaire. Ça fait des centaines de gens, tu vois. C'est pas très difficile, on pourrait former les gens, on pourrait faire des cercles de prévention du suicide dans toutes les villes et tous les villages de France pendant, je sais pas, 3 heures, une fois par an, ça suffit. Hein. Simple. Très simple. Et moi, je garantis qu'on divise par deux le tentative de suicide sur un an en France. J'en suis sûr. C'est plus facile de contrôler le suicide, je pense, que de maîtriser, de limiter le suicide est plus facile que d'empêcher les accidents de la route. En plus, il y a des gens qui se suicident avec des accidents de la route, donc ça c'est aberrant aussi. Il y a des gens, moi j'ai connu des gens qui sont suicidés avec une voiture, tu vois. J'ai connu des gens qui, quand ils pètent un câble, ils prennent la voiture, tu vois. Ils roulent à fond, tu vois. Donc il y a des gens qui suicident en voiture, parce que comme ça la famille touche l'assurance et tout. Donc on pourrait limiter aussi la... Les accidents de la route, en parlant du suicide, il y en aurait une partie qui serait... En tout cas, c'est pas des outils... Il n'y a pas besoin de faire un bac plus 9, doctorat, pour protéger des gens et prévenir le suicide. Ça, c'est sûr.
J'ai posé la question un jour à un conducteur de train. Il m'a dit, dans la vie d'un conducteur de train, on tue quelqu'un au moins une fois. Ouais. Et tu as dû sûrement prendre le train plusieurs fois et tu t'es rendu compte qu'on a eu déjà du retard à cause d'un suicidé sur la voie. Ouais. Et on continue notre route après.
Tu sais, tu reviens de Montréal, là, du Québec. Et ben, tu sais, au Québec, quand ils ont installé le métro, ils ont vraiment protégé parce que c'est là qu'il y avait plus de suicides. Les gens se balançaient sous le métro à la fin de l'hiver, tu vois. Le suicide au Canada, il est énorme, la quantité de suicides, énorme. Et j'ai plusieurs copains qui étaient au Canada qui sont suicidés au pont qui est sur la rivière, le
Saint-Laurent.
Le Saint-Laurent, le grand pont qui est à Montréal, il y a des caméras en haut. Ils ont mis des caméras parce qu'il y a tellement de gens qui sautent, ils peuvent pas les empêcher de sauter. Ils montent et ils sautent. Mais par contre, quand quelqu'un a disparu, ben, ils regardent les caméras, les mecs. Et un jour, moi, j'avais un ami qui avait disparu. On était allé à la police, ils ont regardé les caméras, ils nous ont montré le film, et c'était lui, il s'est ouvert les veines, il a sauté, tu vois. On l'a retrouvé 15 jours après. Donc il y a des mecs qui savent que c'est des lieux de suicide. Je crois qu'il y a, si tu vas sur internet, il y a les plus grands lieux de suicide où il y a le plus de morts. Il y a le Japon, je sais pas quoi, des ponts, des trucs comme ça où les gens se suicident. Ça me semble quand même, pour un être humain qui veut faire du bien à la planète, aux êtres humains, c'est pas un tabou, c'est un truc à faire face, quoi. Puis c'est la mort, c'est super la mort. C'est génial de putain, mais se lever le matin et savoir que je vais mourir, c'est quand même un avantage, non? Tu vis pleinement, quoi. Moi, je pense que la vie, ma philosophie à moi, c'est la vie, c'est un apprentissage. C'est fait pour apprendre à mourir. Quelqu'un qui a vraiment appris à mourir, le moment où il meurt, il y a quelque chose, il fait juste un passage, quoi. Par contre, celui qui n'a pas appris, bon, la souffrance, elle est terrible, quoi. On apprend à mourir tout le temps. Il y a des gens qui meurent, il y a des familles, les divorces, etc. C'est sans fin, quoi. Donc, c'est pas tabou. Ça fait partie de la vie. Donc, bienvenue. Je
suis là. Lionel Santucci utilise des outils dont les principes de vie alliant sagesse et psychologie moderne. La communication transformative est son credo. Il organise des séminaires aux personnes de toute profession qui désirent s'épanouir et vivre leur potentiel. Il nous propose d'entrer en communication avec l'autre tout simplement et de voir le monde avec une perspective plus large. Allez voir son site lionelsantucci.com. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Le Voyage Intérieur, la série d'émissions de Messages de Vie, MES plus loin sage. Ciao.
Voyage Intérieur, la série d'émissions de...